On commence à l'exact.
Allez.
Bezrat Hashem. Inu Ishmato de David Chai Eliyahu.
David Eliyahu Chai.
Ben Sarah et Meir.
Tayeb.
Voilà. Bezrat Hashem, on va faire le cours cette semaine. Sur la paracha de la semaine. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On va au début de la paracha. Hein. On nous parle en Kitissa, hein, la paracha de la semaine Kitissa, on nous parle du Machatzit HaShekel. On rapporte que chaque homme, à partir de l'âge de 20 ans, il aura l'obligation de donner pour le Mishkan, le tabernacle dans le temple, et puis par la suite pour le Beit HaMikdash, de génération jusqu'à génération, de devoir donner le machatzit à Shekel, d'accord. Et on nous rapporte là-bas que c'est une kapara, kofer nafsho. C'est pour, entre guillemets, le recenser. Arriver à recenser le nombre d'hommes au sein du clan Israël, mais en même temps, c'est une kapara. C'est pour se faire pardonner de nos fautes. Extraordinaire. Et depuis, on voit que depuis.
Il y a une période spécifique ou.
Alors, le Machatzit.
C'est pour, c'est pourim, c'est quoi?
Le Machatzit HaShekel, c'est à partir de la semaine qui va précéder le Rosh Chodesh de Hadar, du Hadar Rishon ou Hadar Sheni, quand c'est l'année du mois durant lequel il y aura Hadar. Il y aura pourim, je veux dire. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit là-bas que donc il y a une période qui est donnée entre guillemets par coutume, d'accord, et que en réalité il sera bon pour chaque homme de donner le machatzit HaShekel. Bon, très bien, avec une kapara, kapara tavonot, extraordinaire. Maintenant, combien il y avait d'hommes à l'époque? Des Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte, il y en a 600 000. Bon, ça tout le monde le sait.
Non.
Shishim Ribo, 600 000 hommes. Voilà, maintenant tout le monde le sait. Donc il y a 600 000 hommes. Et on rapporte que la valeur de tous les machatzit à Shekel qui étaient donnés, ça devait donner en argent. Le premier machatzit à Shekel a été utilisé pour faire les Adanim d'Amoudim. Du Kodesh et du Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire les socles des poutres dans lesquelles on allait planter ces poutres à chaque fois pour pouvoir leur permettre de rester debout, de ce qui allait servir à faire l'édifice du Saint et du Saint des Saints, le Kodesh et le Kodesh avec Kodashim, dans le Mishkan. D'accord. Donc tout le Machatzit HaShekel a été fondu, on en a fait des socles d'argent. Bon, c'est magnifique. Les années suivantes, le Machatzit HaShekel allait être utilisé pour le Beit HaMikdash. Depuis qu'on n'a plus de temple, on a pour coutume, avant Pourim, de donner le Machatzit HaShekel en souvenir de la Mitzvah. Donc le Machatzit HaShekel qu'on donne aujourd'hui, ce n'est pas la Mitzvah de l'époque, mais c'est en souvenir de la Mitzvah. Pour qu'on garde le pli, et que Be'ezrat Hashem, quand on aura le Beit HaMikdash, on aura gardé la bonne habitude de donner le Machatzit HaShekel. Mais on voit que le Machatzit HaShekel est très spécial, on dit que c'est une kapara pour nos fautes, en plus. Donc non seulement c'est une tzedaka, mais c'est une kapara pour nos fautes. Alors moi je trouve ça extraordinaire, parce qu'on voit réellement que dans la Torah on nous rapporte que le Machatzit HaShekel c'est pour les hommes à partir de l'âge de 20 ans. On voit que la valeur de tous les Machatzit HaShekel qui ont été donnés, les 600 000 hommes, est équivalente à 200 kikar kesef, d'accord? Donc 200 grands cycles d'argent. Donc c'est la valeur totale, c'est des valeurs monétaires. On nous rapporte, dans la Gemara, les Midrashim nous rapportent que les hommes qui ont donné le Machatzit HaShekel à partir de l'âge de 20 ans ont vécu en moyenne 70 ans. Donc durant 50 ans, ils sont tous venus donner le Machatzit HaShekel. Pour le Mishkan, d'accord, une fois qu'ils sont rentrés durant les 40 ans dans le désert, une fois qu'ils sont rentrés en Israël, pour le Mishkan qui a été érigé en Israël. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que durant 50 ans, ils ont donné le Machatzit HaShekel, Et on voit que si on fait 50 ans, 200, si on fait 50 fois 200, on obtient, que je ne dise pas de bêtises, on obtient 1000, d'accord, on obtient 1000, donc je me trompe, ce n'était pas 200 pièces d'argent, c'était 2000 pièces d'argent.
Non, 50
fois 200, ça fait 10 000. C'est 10 000, c'est ça. 50 fois 200. Ouais, donc c'est elle qui est le cas, bon. Non, voilà, excusez-nous, hein. Donc 50 fois 200, ça fait 10 000, moi je suis nul en maths. Heureusement que Baruch HaShem, il y en a qui sont bons ici en maths. Donc, Baruch HaShem, on fait 50 fois 200, ça fait 10 000. Maintenant, on nous rapporte, chose extraordinaire. On voit dans la paracha qu'il y a un rapport avec Hanouka et qu'il y a un rapport avec Purim. Comment ? On voit que, premièrement, on nous parle dans la paracha de la kapara, et tout de suite après qu'on nous parle de la kapara, de devoir donner le merchatzta shekel, on nous parle d'une mitzvah qui est extrêmement importante, la mitzvah du Shabbat, qu'on doit faire le Shabbat. Et par la suite, on nous rapporte qu'il y a la faute du veau d'or. Que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va se rendre compte qu'il y a eu la faute du veau d'or, eh ben, il va, entre guillemets, il va devoir, entre guillemets, sévir, que le veau d'or va être pris et va être réduit en poussière, d'accord, va être détruit et réduit en poussière. Cette poussière d'or va être mélangée avec de l'eau pour être bu par tous les bnei Israël, et tous ceux qui ont participé à la faute du veau d'or vont avoir leur ventre qui va gonfler, et tous les Lévim, toute la tribu de Lévi va suivre Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu lui dit « Mila Hashem Elai », comme Yehuda Maccabi au moment de Hanouka, d'accord, tous ceux qui sont pour Dieu viennent avec moi, c'était la tribu de Lévi, qui vont passer par le fer, tous ceux qui ont fauté de la faute du veau d'or, pour minimiser leur faute. S'ils n'avaient pas passé par le fer, ils auraient fini par avoir le ventre qui explosait lui-même. D'accord ? Parce qu'ils avaient bu l'eau avec le veau d'or pour voir qui étaient tous ceux qui avaient participé à cette faute. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Par la suite, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe qui veut détruire le Ham Israël que Moshe Rabbeinu va prier pour que Akadosh Baruch Hu ne détruise pas le Ham Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov de faire de leurs descendants une grande nation. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Il a dit, bah, écoute, les bénis Israël, ils ont fauté. Toi, tu restes un descendant d'Avraham, d'Yitzhak et d'Yaakov. Je ferai une grande nation de toi. Donc Moshe Rabbeinu, il n'était pas inquiété, lui. Il n'a pas fait la faute. Au moment où ils ont fait la faute du veau d'or, il était encore sur le Har Sinaï. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en réalité, il a fait preuve d'une grandeur extraordinaire, Moshe Rabbeinu, parce que lui, il est venu, il a prié pour l'ensemble du clan d'Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte, ton peuple, dans la paracha. Et par la suite, on voit dans la paracha, qu'on va nous parler des principales fêtes, on va nous parler avant cela des kelim qu'on doit faire pour le Mishkan, d'accord, du Mikvé pour les Kohanim, on va nous parler de la Ktoret, de tous les encens, des principaux composants de la Ktoret, des encens. On va nous parler par la suite des fêtes juives. Et à la fin, on va voir Moshe Rabbeinu, qui, lorsqu'il est remonté sur l'Har Sinaï pour demander le pardon pour le clan Israël, il a demandé à tous les bénis Israël de prier durant cette période de 40 jours et de 40 nuits pour que Akadosh Baruch Hu puisse leur pardonner la faute du veau d'or, que Moshe Rabbeinu, il va redescendre du ciel avec couvert d'un voile pour couvrir son visage parce qu'il a eu le droit au dévoilement divin. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit quoi ? Il lui dit, parce que tu pries pour ce peuple dans le Midrash, alors je vais me dévoiler à toi. Parce que tu as demandé la capara pour ce peuple, je vais me dévoiler à toi. Non seulement ça, mais sache que je vais faire des grands miracles pour que ce peuple ne me remette plus en question. Il n'a pas dit comme ça. Il dit, je vais faire des grands miracles. Pourquoi ? Pour récompenser Moshe Rabbeinu, de quoi ? De toutes les tfilotes qu'il a fait pour sauver leur âme Israël. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il va exiler de la terre de Canaan tous les peuples, les sept peuples qui y résidaient, pour nous donner cette terre qui va devenir Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Akadosh Baruch Hu, lui, il vient, il nous fait le don, non seulement de la Torah, mais le don de la terre d'Israël par le mérite de qui ? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et il nous garde en vie, il ne nous a pas exterminés au moment de la faute du veau d'or. Par le mérite de qui ? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Donc on voit le mérite de nos sages. Et au début de la paracha, quand on nous parle du Machatzit HaShekel, on dit Kaparat Avonot. Alors il y a une chose qui est extraordinaire. On sait qu'on dit dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. chronologique dans les enseignements. Donc on ne sait pas à quel moment les choses ont été faites, entre guillemets. D'accord ? On sait très bien que la faute du veau d'or a eu lieu au moment où Moshe Rabbeinu était encore sur le Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, l'inauguration du Mishkan n'aura lieu qu'après le Matan Torah, pas avant. Que c'est au moment du Matan Torah, sur le Har Sinaï, donc à ce moment-là où les Bnei Israël vont faire la faute du veau d'or, que Dieu va faire monter dans le ciel Moshe Rabbeinu pour lui expliquer comment construire le Mishkan en lui montrant les plans du Bet Hamikdash dans le ciel. Donc on voit quoi ici? On voit que la semaine dernière, on a parlé de la construction du Mishkan, on nous parle du Machatzit HaShekel, mais on voit que le Machatzit HaShekel, il a eu lieu quand? Il a eu lieu après la faute du veau d'or en réalité. Et pourquoi on nous le met en premier ici dans la paracha quand on nous parle de la faute du veau d'or? Et pourquoi avant de nous parler de la faute du veau d'or, on nous parle de la construction du Mishkan? Parce qu'on nous dit que la construction du Mishkan était aussi importante pour Dieu que la création du monde. Que le monde n'a été créé que pour que l'homme puisse y faire la parole divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter Akadosh Baruch Hu et accéder à sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité ici, quand on voit dans quel ordre on nous met les sujets dans ces différentes parachiotes, c'est pour nous dire quoi en réalité? Pour nous dire que d'abord, c'est par l'attachement de la Torah et des mitzvot, et de l'accomplissement des mitzvot, que vous avez la kaparat avonot. Et c'est par la tzedaka, comme il dit Shlomo Ameler, ou tzedaka tatzil mimavet. Et la tzedaka, l'aumône, sauve de la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ici, à Kadosh Baruch Hu, il y a différents enseignements qu'il veut nous rapporter à travers la Torah. L'ordre dans lequel les parachutes ont été rédigés, d'accord, et les sujets dans lesquels ont été rédigés ont une importance. C'est quoi en réalité? L'importance est la suivante. D'abord, vous faites un Mishkan. Pourquoi le Mishkan? Pour que chacun, chez vous, dans votre Neshama, dans votre foyer, vous fassiez de votre foyer, de votre corps, un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des autres. Chose qui ne sera possible qu'à travers l'attachement à vos maîtres. Qui est notre premier maître? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on nous rapporte? On nous rapporte quoi? On nous rapporte dans la paracha de la semaine dernière, on nous rapporte qu'il y avait le... qu'il fallait le... l'huile d'olive pour allumer la menorah, et qu'il fallait la ketoret. Et on voit dans la paracha de la semaine qu'on nous reparle de la ketoret. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la ketoret? On sait très bien que quand Moshe Rabbeinu est montré dans le ciel, alors tout le monde connaît ça, Baruch HaShem, quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, les anges se sont révoltés, entre guillemets, ont dit, pourquoi tu vas donner la Torah, quelque chose d'aussi saint, à des hommes? C'est que les hommes, ils ont leur mauvais penchant. Ils ne vont pas écouter ta Torah, ils vont continuer à faire des guerres, ils vont continuer à avoir la haine entre eux, ils vont continuer leur racisme, ils vont continuer toutes leurs petits différends. À quoi ça sert de leur donner la Torah? Et Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de répondre aux anges. Pour quelle raison la Torah devait être donnée aux hommes? Moshe Rabbeinu leur a répondu que pendant 6 jours, on travaillera et que le 7e jour, on se reposera le jour du Shabbat. Les malachim, ils n'ont pas de notion de travail et de repos. Qu'on devra respecter notre père et notre mère. Que les malachim, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. D'accord? Donc il leur a prouvé par A plus B que les commandements qui étaient dans la Torah s'adressaient aux hommes. Le malach Hamavet, le Satan, a été tellement impressionné du courage de Moshe Rabbeinu et de sa sagesse, pour un homme, qui lui a dévoilé un petit secret. Il lui a dévoilé que lorsqu'on faisait les encens, la ketoret, ça pouvait arrêter toutes les épidémies. Ça provoquait quoi? Le pardon de nos fautes. Donc on voit quoi en réalité? Que l'enseignement de la Torah qui est imagé dans le Mishkan par la menorah, qui illumine ce monde, alors que la menorah, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est un truc de fou quand même. On nous dit d'allumer une menorah pour Moshe Rabbeinu dans un Mishkan. D'accord? Donc dans une cour avec des tentures. Dans cette cour, on nous demande de construire une grande tente divisée en deux. Et dans le premier espace de cette tente qu'on appelle le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh, de mettre la menorah derrière un rideau. Donc on nous a dit d'allumer une menorah derrière un rideau. Pour Moshe Rabbeinu, ça va illuminer nos générations. Comment on peut illuminer des générations si on vient cacher une lumière derrière un rideau? On a répondu qu'en réalité, ici, c'est l'attachement à l'enseignement oral qui est représenté par la menorah, que quand on vient, on allume les lumières, c'est les lumières de la Torah qui vont illuminer chacun de nos foyers. Bon, alors c'est très beau, c'est poétique, c'est magnifique. Maintenant, les maasés, qu'est-ce qu'on voit dans notre paracha? On voit en réalité qu'ici, à Kadosh Baruch Hu, il va beaucoup plus loin. Il va dans le sens de nous dire que, un, C'est par le mérite de la tzedaka qu'on va donner que notre faute, la première grande faute de l'ensemble du peuple d'Israël, le veau d'or, va pouvoir commencer à être pardonnée. Par le machatzita shekel. Que c'est par le mérite de la purification de nos kohanim qui vont se tremper dans le kior, que c'est tout de suite le sujet qu'on aborde, et par le mérite du fait de faire Shabbat, que les Israël seront protégés. Donc c'est par la purification, par l'accomplissement du vizvot, par le Shabbat, par la cacheroute, par les jours de fête, tout ça c'est abordé dans notre paracha. Par ce mérite-là, on a condensé tout ça dans cette paracha-là. Pourquoi ? Parce que c'est la paracha de la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or ? Est-ce qu'ils ont fait l'idolâtrie, les Bnei Israël ? On rapporte que non. Les Bnei Israël, ils ont demandé à Aaron, on voit bien qu'on parle de Dordéa, on voit une génération qui a eu le droit au dévoilement divin. En réalité, ils ont demandé à Aaron d'avoir un leader qui puisse remplacer Moshe Rabbeinu, et que ce leader-là ne pouvait pas être un homme. Donc ils avaient besoin de créer un leader par une aide providentielle divine pour mener les Bnei Israël à bon terme pour remplacer Moshe Rabbeinu. Pour quelle raison ? Parce que eux, ils sont trompés d'une demi-journée avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu l'a dit, vous avez compté 40 jours et 40 nuits, il a dit 40 jours, 40 nuits. Donc il a commencé à compter à partir du lendemain matin. Les Bnei Israël, ils ont compté à partir du moment où Moshe Rabbeinu m'ont testé le soir. Donc il y a eu un décalage d'une demi-journée entre le décompte des Bnei Israël et de Moshe Rabbeinu. Durant cette demi-journée, le Yetzer Hara, il a mis à l'épreuve les Bnei Israël. Il a montré dans le ciel l'image de Moshe Rabbeinu qui avait été mise à mort par Dieu. Les Bnei Israël ont dit, Kadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre nous, il a tué Moshe Rabbeinu. Comment on va pouvoir se faire pardonner? Et comment on va pouvoir être mené, vu que notre leader, Moshe Rabbeinu, il est irremplaçable, un homme ne peut pas le remplacer. Donc ils ont demandé à faire le veau d'or, ce qui veut dire que le veau d'or, ce n'était pas une idolâtrie. Le veau d'or, à la base, c'était un nouveau leader qu'ils voulaient pour les Bnei Israël. Un leader qui ne pouvait pas venir de façon naturelle. Moshe Rabbeinu, on va le rappeler, quand il est venu au monde, c'est un enfant qui, durant les premiers jours de sa vie, dégageait une grande lumière. Au bout du premier mois, la famille s'est rendue compte qu'il serait impossible de le cacher dans la maison parce que c'est un enfant qui dégageait une lumière. Donc ils ont décidé de le mettre dans une petite arche, entre guillemets, dans son oiseau. Comment ça s'appelle en français ? Hein ? Comment ça s'appelle ? Un osier ? Un berceau en osier, d'accord ? Et de le mettre sur le Nil, entre guillemets. Le Midrash nous rapporte que Moshe Rabbeinu, il est resté sur le Nil, vous savez pendant combien de jours ? 40 jours et 40 nuits, suivi par Myriam. Le Midrash nous rapporte que Moshe Rabbeinu, comment il a fait pour se nourrir dans son berceau en osier sur le Nil ? Alors on rapporte que là-bas, sa mère, elle aurait mis une petite pierre qui donnait du lait, une petite pierre qui donnait du miel. Et un autre avis qui dit non, il avait un pouce, il tétait, c'était du lait, un autre pouce, il tétait, c'était du miel. C'est un enfant très particulier. Et lorsqu'ils l'ont trouvé sur le Nil, vu que Pharaon, lui, n'était pas censé être un homme, c'était censé être le fils du Nil et un dieu, raison pour laquelle Yosef a été nommé roi en Égypte, pas premier ministre. Il était roi en Égypte parce que Pharaon, c'était pas un roi, c'était un dieu, c'était le fils du Nil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, quand il est arrivé que Bathsheba l'a trouvé, d'accord ? Qu'est-ce qu'on nous rapporte ? Pas Bathsheba. Sa mère, quand sa mère adoptive l'a trouvée, d'accord ? Qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit qu'elle est venue et qu'elle a vu cet enfant qui était particulier. Ils ont dit, lui aussi, c'est peut-être un enfant du Nil. Comme Pharaon. Donc c'était le digne héritier de Pharaon. On voit comment les choses, elles se sont faites. Comment Pharaon, il s'est fait prendre à son propre jeu, avec ses propres mensonges. Quand on nous voit dans la paracha, on dit Boel Paro dans le même Loez. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a dû aller voir Paro. Paro, on dit qu'il faisait de la magie et qu'il arrivait à créer des dimensions parallèles, à accéder à des dimensions parallèles et qu'il se cachait dans ces dimensions-là pour faire quoi ? Pour faire ses besoins. Comme c'était un dieu, il n'était pas censé faire ses besoins. Et comment il faisait ses besoins ? Aaron et Moshe sont rentrés dans ses toilettes. Ils lui ont montré que c'était qu'un homme. Et que Dieu savait que c'était qu'un homme. C'est ça tout le danger que Pharaon avait ressenti face à Moshe. C'est pour ça que Pharaon il était aussi troublé face à Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité qu'ici les Bnei Israël, de les accuser d'avoir fait la faute de l'idolâtrie, ce n'était pas si simple. Après, une fois que le veau d'or a été fait, alors oui, il y avait parmi les Bnei Israël, des gens qui venaient de se convertir, le Erev Rav, et qui, eux, ont fait l'idolâtrie. Et les Bnei Israël, les voyant, eux, faire l'idolâtrie, se sont tus. Eux, ils voulaient un leader. Mais le Erev Rav, ils voulaient une idole. Parce qu'ils n'ont rien dit au Erev Rav, qui considérait le veau d'or comme une idole, on les a considérés fautifs. Pour quelle raison? Parce que le Erev Rav, d'accord, c'était des tout nouveaux convertis, et que nous sommes tous garants les uns des autres, et que eux, ils se sont dit, bon, c'est des convertis. C'est des Égyptiens qui viennent de se convertir. Et ils sont convertis, pourquoi? Pour se sauver d'Égypte. Ils ne sont même pas convertis parce qu'ils ont reconnu la grandeur de Dieu. On va les reprendre, on va leur dire quelque chose. À Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il a considéré tous les Bnei Israël fautifs parce qu'ils n'ont pas repris les convertis pour les avertir de leur faute. Et c'est pour ça qu'on a considéré que tout le peuple a été fauté. C'est intéressant. Ça change tout. Ça change toute la donne. Et c'est pour ça qu'on nous rapporte qu'on va venir et qu'on va donner le Machatit HaShekel au début de la paracha. La Tzedaka, meilleur moyen de commencer à se faire pardonner nos fautes. Le Shabbat, meilleur moyen de se faire pardonner nos fautes. Comme on a dit dans la Gemara, Dav Kuf Yutret dans la Sechet Shabbat, si tous les Bnei Israël font deux Shabbats de suite, qui est le Khata, donc connaître toutes les alachot de Shabbat comme il faut, non seulement c'est Mashiach qui vient, mais c'est Mashiach sans les épreuves qui vient, qui se dévoile à nous. Mashiach sans aucun souci, une délivrance, tranquille, pépère. Parce qu'il y a une Gemara dans Nedarim, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Gemara dans Nedarim qui nous dit que si tous les Bnei Israël sont idolâtres, mais ils sont unis, Mashiach aussi vient. On dit là-bas, c'est pas la même Gioula. Là-bas, c'est une Gioula. Si on n'est pas unis autour de la Torah des Mitzvot, c'est une Gioula qui se fera dans la souffrance. Alors que si on est unis autour du Shabbat et de la Torah des Mitzvot, c'est une Gioula qui se fera dans la facilité, dans la joie et la bonne humeur, pour nous et l'ensemble de l'humanité. Donc d'où l'importance pour le clan Israël de faire la Torah des Mitzvot. Et ça commence par quoi? Shabbat. Ça commence par quoi? La cacheroute. Pourquoi? Pour être pur. Comme le Kohen qui va se tremper dans son mikvé. Chose dont on parle dans la paracha. Pourquoi? Pour que Dieu nous pardonne nos fautes et qu'il soit prêt à faire des guerres pour nous. Qu'il soit prêt à se battre pour nous, entre guillemets, pour nous protéger. Pour donner la terre d'Israël. Pour se dévoiler une nouvelle fois à Moshe Rabbeinu. De dos, entre guillemets, c'est ce qu'on nous rapporte. Et que Moshe Rabbeinu, par ce dévoilement, va accéder à un tel niveau de spiritualité qu'il devra se couvrir le visage tellement son visage resplendira de sainteté. On rapporte que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est redescendu de cet endroit-là, il était moitié homme, moitié ange. C'est plein d'hommes comme les autres.
Avec les louchotes.
Non, pas la première fois, pas avec les louchotes, c'est la deuxième fois. Moshe Rabbeinu, il est monté trois fois sur l'or Sinaï. Une première fois pour recevoir la Torah à la sortie d'Égypte. Une deuxième fois, 40 jours et 40 nuits, pour demander le pardon au clan, pour le clan Israël de la faute du veau d'or. Et une troisième fois pour recevoir les deuxièmes trois tables de la loi. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que Moshe Rabbeinu, il va redescendre comme ça. Et que tous les Bnei Israël, ils vont être tous attachés autour de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Torah? Parce que c'est par le mérite de Moshe, le mérite d'un homme, qu'on a eu le pardon et qu'on a eu tous ces grands mérites. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous rapporte dans la paracha de la semaine dernière? Pourquoi on nous fait le rapport entre la menorah et la ktoret? On nous rapporte que dans ce monde, l'homme se nourrit par la bouche. Mais que après cette vie, la neshama se nourrit par l'odorat. Et que dans le monde futur, lorsqu'il y aura la délivrance, on se nourrira par la vue. De quoi on va se nourrir? De la présence divine. Donc aujourd'hui, on se nourrit par la bouche, les odeurs, présence divine.
Il y aura que des maigres.
D'accord. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit en réalité que quand on nous fait le rapport entre la menorah et Ktoret, ça on nous dit quoi? Que tu es dans le Kodesh. Dit, tu veux accéder à la sainteté. Dans le Kodesh, il y avait quoi? Il y avait Shulchan Lechem Apnim, il y avait Mizbera Ktoret, et il y avait la menorah. Shulchan Lechem Apnim, Lechem Apanim, le pain qu'on donnait pour les Kohanim, un pain par tribu, d'accord, que les Kohanim pouvaient manger. Donc, on se nourrit par la bouche. Après, il y a quoi? Il y a la Ktoret. Hein? L'odorat, et enfin la menorah, la vue. Dans le Kodesh, il y a tous les accès pour accéder au Kodesh à Kodashim, où il y avait le Luchot Abrit. Et il y avait la Shrina qui était là-bas, la présence divine. Donc ça veut dire quoi? On doit aspirer à s'élever. Dans ce monde, comment on se nourrit par la bouche? C'est comment tu manges? Pourquoi tu manges? Est-ce que tu manges parce que c'est bon? Ou est-ce que tu manges parce que Un, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu kiffes quand tu fasses les brachot, donc il te donne de la nourriture avec différentes couleurs, différentes saveurs. Mais il t'a donné cette nourriture pour être en bonne santé. Donc si tu manges pour être en bonne santé, avoir la force de faire Torah en Mitzvot, t'occuper de ta famille, inématov ou manen. Si tu manges pour manger, te plante. Alors par rapport à ça, c'est la même chose. Ainsi, tu ne ferais pas la différence entre se nourrir par la bouche, ou se nourrir par l'odorat, ou se nourrir par les yeux. Parce que tu te nourris pour être en bonne santé, pour faire la voix d'attachée.
Et pour aller à la Sina.
Pour aller à la Sina. Donc voilà. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Quel rapport avec Pourim? On nous rapporte à Pourim que Haman, il est venu et il a demandé à faire tuer tous les Bnei Israël en un jour. Et il a donné combien? Quelle somme d'argent il a donné à Achashverosh? Quelqu'un s'en souvient? Esser Elef Kikar Kesef. 10 000 pièces d'argent. 10 000 pièces d'argent, exactement. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'était une somme d'argent. On voit quoi? Que durant tous ces jeunes hommes de 20 ans qui ont vécu en moyenne pendant 70 ans et qui ont tous donné durant 50 ans le Machatzit HaShekel, sont arrivés à la même somme. On voit que par le mérite du Machatzit HaShekel, de la génération qui est sortie d'Égypte, on a eu le mérite que Akadosh Baruch Hu annule l'Akzera de Haman, qui lui est venu à donner cette somme d'argent équivalente à Achashverosh pour pouvoir nous tuer, le même jour massacrer tous les juifs à travers les 127 pays de Achashverosh. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que malgré ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait un S dans le ciel caché pour sauver les Bnei Israël. Par le mérite de quoi? Du Machatzit HaShekel. Qui a tenu pourquoi? Au départ, pour la Kaparat Avonot du Vaudor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, quels sont les messages qu'on peut déduire de là? Alors, vous avez très bien compris les messages, ils n'ont pas été du tout subliminaux. Baruch HaShem, il y a le Shabbat. Shabbat. Maintenant, c'est quoi faire Shabbat? D'abord, c'est d'étudier les halakhot Shabbat. D'accord? Faire Shabbat, c'est pas comme on pense. D'accord? On ne touche pas la lumière, on fait le kiddush et on va à la synagogue. Ça, c'est un début. En réalité, pour faire Shabbat, il faut bien étudier les halakhot de Shabbat. Parce que les halakhot de Shabbat, si je vous parle d'une toute petite halakha, le thé durant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire du thé Shabbat? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire du thé? Il y a différents avis. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que normalement, à partir du moment où le thé a été cuit et séché au four, on nous rapporte que En Bishul la Harafia, qu'on nous considère qu'il n'y a plus de cuisson sur le feu ou dans l'eau chaude pour un aliment qui a déjà été cuit au four. D'accord? En Bishul la Harafia, raison pour laquelle les sachets de thé qui ont déjà été cuits au four, on pourra les mettre dans l'eau chaude durant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Mais attends, il y a un autre problème que les gens ne connaissent pas. Ton sachet de thé. Ton sachet de thé. Écoute bien. C'est extraordinaire. Ton sachet de thé, quand tu vas vouloir l'enlever, si tu le soulèves et qu'il goûte, tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Tu n'as pas le droit, c'est Srita. C'est épongé durant Shabbat. On n'a pas le droit.
On n'éponge pas, on enlève le.
Tu l'enlèves. Quand tu l'enlèves, ça goûte.
Ça goûte.
Alors, ça goûte parce que tu l'as levé. Laisse-le dans le verre. Bois ton verre avec le sachet dedans. Ou si tu enlevais le sachet, écoute. Ou si tu veux enlever le sachet, comment tu fais? Tu prends une cuillère. Et avec la cuillère, dans la cuillère, il y a déjà du thé. D'accord? Et tu soulèves le sachet. Comme ça, le thé, il va goûter dans le liquide, entre guillemets, de la cuillère. Et tu peux poser à côté. On considère que ce n'est pas égoutté. Ce n'est pas la volonté d'égoutter.
Ça veut dire que personne.
C'est une halakha. C'est une halakha. Ça fait partie des règles à connaître. Maintenant, ça va plus loin que ça. Il y en a qui pensent que yesh bishul lacha rafia. Alors, comment ils vont faire du thé? Ils vont faire une essence de thé avant Shabbat très concentrée qu'ils vont laisser sur la plata durant tout Shabbat, au chaud. Et ils vont mélanger leur eau chaude avec cette essence de thé pour ne pas se rentrer dans le problème. C'est une
roue.
Alors, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est Shomer Shabbat s'il n'a pas étudié les Shomer Shabbat?
Alors, il y a une halakha qui nous rapporte que tant qu'on est en train d'étudier les halakhot de Shabbat et qu'on est en train de les étudier et qu'on ne les connaît pas toutes encore, du fait qu'on soit encore en train de les étudier, les fautes qu'on a commises sans le savoir, elles sont considérées des shogeg. C'est des fautes involontaires qui seront très facilement pardonnées à une personne tant qu'elle est dans une dynamique d'étudier les halakhot. Si la personne n'étudie pas les halakhot et reste sous ses acquis toute sa vie, il se dit « je fais Shabbat sans étudier les halakhot. Je fais Shabbat parce que c'est mon père, mon grand-père et ma grand-mère qui m'a dit de faire comme ceci, comme cela. » sans moi-même m'intéresser aux halakhot et à chercher à les comprendre, on se rentre dans une petite problématique. Donc voilà, donc pour sortir de cette problématique, il faut étudier les lois du Shabbat. Pourquoi ? Hein ? Alors, il y a le respect des anciens, des us et des coutumes, et parmi nos anciens, vu que Baruch HaShem, en Afrique du Nord, il y a eu le passage de l'Alliance, et qu'il y a eu pas mal d'assimilations, une grande perte de Massorette, et que même parmi nos anciens, nos grands-parents, et voire pour certains, leurs arrière-grands-parents, il y a des gens qui ne savaient même pas lire le Shulchan Aruch. Ah si, ça existait. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des gens qui ont des coutumes qui sont erronées. C'est pourquoi... pour éviter d'appliquer des coutumes erronées, on a mis à l'écrit toutes les lois. À travers la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch. Pour éviter de se planter. Donc ça veut dire quoi ? Il y a les coutumes familiales, il y a des coutumes, Baruch HaShem. Tant que ces coutumes-là, elles sont en adéquation avec les lois qui figurent dans le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. On les fait. S'il y a un problème, il y a un problème. C'est qu'il y a, quelque part, une erreur dans la coutume familiale. Ou dans la compréhension d'un de nos proches. Dans la coutume telle qu'elle devait être appliquée dans la famille. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on se doit d'étudier les halakhot de Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on dit que quand on fera tout Shabbat qui
est
Khatat.
Hein ? Pour ne pas refaire la même.
Exactement. Faute, en fait. Parce que pour Shmira, quand on dit que quand on fait Shabbat qui est Khatat, deux Shabbatot de suite, et c'est la Gioula qui vient, qui est Khatat, ça veut dire qu'on connaît les halakhot. Pour connaître les halakhot, il faut les étudier.
Ah oui.
Faut les étudier, il faut s'y mettre. Et c'est pas dur. C'est vraiment pas dur, parce qu'aujourd'hui, Baruch HaShem, il y a des super livres. Il y a un livre qui s'appelle « Les fondements du Shabbat » du Rav Yosef Luria, ou Yaakov Luria, du Rav Luria. D'accord ? « Les fondements du Shabbat ». Il y a un autre livre de Shmirat Shabbat, traduit en français, du Rav Nurvis, en deux volumes. Non, on étudie deux halakhot tous les jours, une halakha chaque jour, c'est super. Ou encore, il y a encore autre chose qui est très très sympa à faire, qui s'appelle le Me'am Loez, où vous avez tout le midrash sur la paracha de la semaine. Et les principales halakhot, et au passage, on vous enseigne toujours des halakhot en trois, avec le Shabbat. Et ça, c'est très sympa. Voilà. Et c'est beaucoup plus ludique. Donc, il y a de quoi faire. Et tous ces bouquins-là, aujourd'hui, Baruch HaShem, ils ont été traduits dans toutes les langues. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, on voit quoi en vérité ? Que Baruch HaShem, on voit que, un, Ma'aseh Avot Siman Lebanim, l'action des pères, c'est un signe pour les générations à venir, pour les enfants. Donc, on voit quoi ? Le Machatzit HaShekel qui a été donné par les jeunes de 20 ans à l'époque de la sortie d'Égypte. Pendant 50 ans en moyenne, c'est ce qui a permis la capara du Ham Israël durant la période de Pourim, dans laquelle on va bientôt rentrer. Baruch HaShem, à Siri Kodesh. Donc c'est ce qu'on voit à Baruch HaShem, et qu'on voit en réalité que si on vient et on prend sur soi de se renforcer, et je rappellerai entre guillemets que Baruch HaShem, ici on est dans la maison de Rabbi David Tayeb Zichrono Livracha, qui était un monsieur qui avait la soif d'apprendre. Il faisait venir ici un rave, raison pour laquelle il y a ce shiur qu'on fait aujourd'hui, parce que deux fois par semaine, il faisait venir un rave dans sa maison pour étudier avec lui la Mishnah, la Gemara, la Halakha, et avancer, Baruch HaShem. Donc il faut, dans le même sens que ses descendants et que tous les convives qui sont ici suivent ce chemin à Bezrat HaShem et cet exemple, pour arriver à étudier ne serait-ce que chaque jour une Halakha, on dit que c'est bien d'étudier deux Halakhot chaque jour. D'accord ? De commencer par le Shabbat. C'est un bon début, Bezrat Hashem, pour amener la Géoula dans le monde. Amen. Kenye Ratson. Voilà, s'il y a des questions, Bechavod.